Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce florilège des arts. Je remercie Claudia, la technique, pour la réalisation de cette émission. Si vous avez des questions à poser, des observations ou autres remarques à nous faire, à faire à mon invité ou à moi-même, n'hésitez pas à envoyer un courriel électronique et ainsi il me sera transmis et nous chercherons à vous répondre au mieux. Vous pouvez aussi tenter le standard. Je ne sais pas si vous aurez un retour. Je vous conseille quand même, en cette période de travaux sur Radio Courtoisie, plutôt le courriel électronique. À vous de voir, néanmoins. Voilà, parce que nous avons des bénévoles, et bien sûr, ces bénévoles sont ceux qui aident et qui contribuent beaucoup à la marche, à la bonne marche de cette radio. C'est le cas des patrons d'émission, c'est le cas de leur assistant, c'est le cas de tous ces bénévoles qui vous répondent au standard souvent. Voilà, alors, le titre thème de l'émission du jour, Napoléon et le merveilleux. Tiens, si je vous dis merveilleux, vous avez un indice sur celui que j'ai décidé d'inviter à nouveau dans ce florilège des arts, qui n'est autre que notre vice-président, notre, non pas vice-présidio, vice-président de Montmartre, de la République de Montmartre, bien sûr, pas de la République française, de la République de Montmartre. On peut d'ailleurs être parfaitement monarchiste en étant citoyen de Montmartre. Je pense que ce n'est pas en soi incompatible. Et donc, c'est Gérard Le Tailleur aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir dans ce florilège des arts. Bonjour mon cher Gérard.
Bonjour Nicolas, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui devient une chronique un petit peu pour les personnes qui ont la gentillesse de nous écouter.
Exactement Gérard, une chronique sur le merveilleux, sur l'étrange, sur l'insolite. C'est d'ailleurs l'un des thèmes favoris sur lequel vous brodez dans nombre d'ouvrages, l'insolite. Et oui, il y a des vies insolites, il y a du mystérieux, j'ai envie de dire en particulier à Paris, dans son architecture, il y a ce merveilleux, il y a cet insolite, il y a ce symbolique aussi, et nous allons parler de Napoléon aujourd'hui. Peut-être auparavant, Gérard, vous demandez quand même quelques nouvelles de la République de Montmartre, de Montmartre en revue. Est-ce que tout va bien?
Eh bien, la République de Montmartre se porte très bien, devrais-je dire, de mieux en mieux. On prépare notre prochain numéro le 27 de ce mois de Montmartre en revue, qui est une revue qui est quand même tirée en moyenne à 25 000 exemplaires. Tout est distribué, même à travers le monde, puisque nous avons des personnes qui nous ont, permis d'ailleurs d'être connus à travers le monde, puisqu'ils habitent un petit peu partout. Donc ces personnes reçoivent cette revue. Quant à la République par elle-même, eh bien ma foi, tout va très bien. On va bientôt avoir un conseil des ministres, et puis notre grande réunion annuelle aussi. Donc voilà, on continue d'essayer de faire briller l'image de Montmartre et de sa République à travers les continents, ce qui est une bonne chose, surtout à l'époque actuelle où on a tendance malheureusement à n'apprendre que de très très mauvaises nouvelles en ce moment. Donc on essaye de faire vibrer le vieux Paris, le vieux village de Montmartre, voilà, se rattacher un peu à nos vieilles sources parisiennes, devrais-je dire, voilà.
Alors peut-être les travaux des champs qui débutent en mars, dans ce village, est-ce qu'on taille la vigne?
Ah bien sûr,
bien tout sûr. Ça, les futures vendanges.
Et voilà, puis là, notre prochain numéro aussi sera consacré en partie, puisque j'ai eu le plaisir d'en écrire d'ailleurs l'article, consacré donc aux puces de Saint-Ouen, donc qui est un des sites les plus visités de France et devrais-je dire de Paris, puisqu'il draine quand même chaque année près de 5 millions de visiteurs qui viennent également de partout. Donc c'est cette histoire qui commence vers 1885 et qui perdure jusqu'à nos jours.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant de débuter notre sujet sur Napoléon et le merveilleux, d'ailleurs peut-être de l'étymologie du sens premier des puces, est-ce que c'est lié aux puces de lui, ce sont les Russes, nous dit-on aujourd'hui, c'est les Russes. Les puces. Mais alors, et les puces, est-ce que c'est lié à, aux puces,
mais vous avez parfaitement raison, parce que je vous ai parlé de 1885. Quelques années plus tard, lorsque le marché s'est développé, certains écotiers, donc, dans la presse, appelaient ça la foire aux puces, en disant qu'on appelait ça la foire aux puces eu égard au fait qu'on y vendait des vieilles fripes mitées, puces comprises, voilà. Pour les citer, puces comprises.
Puces comprises, voilà. Voilà, des haillons pleins de puces, donc évidemment, de là
tout à fait,
eh bien, est venu le mot de puce. C'est devenu les antiquaires aussi, beaucoup.
Oh, maintenant, oui, il y a plus de... Après, les chiffonniers, les chiffetiers, les récupérateurs, enfin, on leur donnait beaucoup de noms à ces chiffonniers. Je crois que le plus beau, d'ailleurs, avec une connotation poétique, on les appelait parce qu'ils sortaient que la nuit, donc on voyait leurs ombres un peu se découper dans la nuit. On les appelait les pêcheurs de lune. Je trouve que c'est quand même une expression qui est très belle. Mais ils étaient quand même 35 000, hommes, femmes et enfants, à sillonner les rues et ruelles du vieux Paris, donc en quête de tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Et à partir, donc, on va dire, de ces années 1885-90, ils ont commencé à s'installer en dehors des fortifications. Ils avaient été chassés. Si on repart un petit peu dans ce contexte-là, un événement quand même extrêmement important qui s'est passé en 1884, c'est une grande épidémie. On en avait eu beaucoup déjà de choléra. Et donc, les chiffonniers se sont vus, se sont trouvés dans l'obligation de quitter Paris parce que ce qu'ils faisaient ne pouvait que propager encore plus cette épidémie. Donc, ils se sont retrouvés j'allais dire dans les communes limitrophes, à savoir le Kremlin-Bicêtre, Vanves, et puis la plaine des Malassis aussi, qui deviendra une partie de Saint-Ouen avec le temps, et c'est là où sur 7000 mètres carrés, excusez-moi, on retrouvera donc aujourd'hui les puces, le marché aux puces. Le premier étant Vernaison, puis après il y a eu Biron, puis il y a Dauphine. Enfin, il y a une douzaine de grands marchés comme ça qui forment les puces de Saint-Ouen aujourd'hui.
Eh bien,
voilà.
Formidable érudition de notre ami Gérard Le Tailleur, dont on rappelle aussi un de ses derniers livres, Si Montmartre et la Bonne Franquette nous étaient comptés.
Et le prochain qui sera consacré, donc, au bouillon Chartier, d'ailleurs, encore une évocation de la fin du 19e siècle.
Oui, c'est une période dont vous êtes quelque peu nostalgique, j'ai bien pu le constater, que vous n'avez pas connu, malgré votre grand âge. Gérard, bien. Bon, écoutez, donc si tout va bien, si la République va bien, si son siège social, la Bonne Franquette va bien, si vous continuez à faire le bien par la joie.
Le bien par la joie, ça. Bien sûr, oui, c'est notre devise.
La devise. Alors, tout va bien. Gérard, notre sujet du jour, donc Napoléon est le merveilleux empereur, même s'il... pouvait chercher parfois à se tenir à distance des cartemanciers, des devins, de tout ce qui était l'étrange, l'invisible. On connaît l'esprit rationnel de ce stratège hors pair qui était Napoléon. Et pourtant, eh bien, déjà les prophéties concernant l'empereur ne manquent pas. Est-ce que vous avez envie donc de nous parler de ce sujet auquel on ne s'attendait pas,
non,
à
c'est
voir Napoléon et le merveilleux.
C'est certain. D'ailleurs, c'est un sujet qui s'inscrit dans le cadre des émissions précédentes qu'on a eu le plaisir de faire ensemble.
Sûr.
Puisque je crois que le point commun entre Napoléon et puis bien sûr ses grands prédécesseurs dans l'histoire, c'est que ce sont des personnages, des grandes personnalités qui se retrouvent en fait complètement isolées parce qu'elles arrivent à se demander pourquoi elles occupent la position qu'elles ont à un moment bien précis dans l'histoire. Et donc, elles se posent des questions, ces personnalités, et elles, inconsciemment, elles se laissent faire, c'est-à-dire elles se laissent entourer de mages, de devins, qui vont... qui vont peut-être leur dire ou les faire réfléchir parfois sur une décision. Et ils essayent de comprendre pourquoi ils en sont là, pourquoi ils sont, comme Napoléon, pratiquement maître du monde à un certain moment de l'histoire. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, c'est un côté qu'on connaît beaucoup moins. On a évoqué ça autour du général de Gaulle et de beaucoup d'autres personnalités dans notre dernière émission. Mais Napoléon, c'est vrai, on le voit plutôt en fin stratège, en homme de guerre. Or, il ne faut pas oublier que, d'abord, il est Corse, ça a beaucoup d'importance pour l'histoire que nous allons raconter, puisque, comme bien des Corses, dès sa tendre enfance, il était bercé par des contes féeriques, par des histoires qui touchaient, qui touchent toujours d'ailleurs le surnaturel, où on voit apparaître entre les flammes errantes, c'est-à-dire les fameux feux follets, les âmes des défunts, entre guillemets, quoi, des trépassés, donc en mécréant, afin d'égarer les voyageurs, les entraîner vers les précipices. Toutes ces histoires lui étaient contées par une femme qu'il a adorée, qui s'appelait Camilla Iberi, née Carbone, qui en fait était sa nourrice.
Et oui.
Et ça a été les deux grandes femmes de son enfance, Laetitia, bien sûr, sa maman, et surtout Camilla Hilary, qu'il adorait. Elle lui faisait faire d'ailleurs des incantations contre les démons et pour le protéger quand il était tout petit, le protéger contre le mauvais sort. Elle lui posait une assiette pleine d'eau sur la tête, elle y versait quelques gouttes d'huile. Tout cela, bien entendu, impressionnait le tout petit bonhomme qui était Bonaparte à l'époque. Et au fil du temps, ça l'a même rendu superstitieux, toutes ces choses. Alors du coup, tout au long de sa vie, on va le développer ensemble, si vous le voulez bien, avec grand plaisir, il s'est mis à croire aux présages, aux talismans. Alors il en a porté beaucoup sur lui, d'ailleurs, tout au long de sa vie. Notamment un petit cœur de satin noir qu'il mettait entre son gilet de flanelle et sa chemise. Paraît-il que c'est Laetitia, donc sa maman, qui lui conseillait cela pour chasser les mauvais esprits. Et puis surtout, et ça c'est important parce qu'on a tous l'image de Napoléon qui mettait sa main, etc., donc, sur son torse, hein. Vous voyez, la main dans l'échancrure de sa redingote, etc.
Oui, oui.
C'est la vision qu'on a de l'empereur. En réalité, dans cette petite poche, il se trouvait un scarabée que Napoléon avait ramassé. Il avait trouvé dans le tombeau d'un pharaon pendant la campagne d'Égypte. Et ce scarabée était porteur de bonheur et écartait aussi donc, les mauvais esprits. Et donc, il avait coutume de faire ce geste en permanence. Alors, bien sûr, il y a des gens plus cartésiens, des historiens qui ont considéré ça sous un angle complètement différent, en disant que c'était simplement pour calmer ses maux d'estomac. Voilà. Mais donc, on va laisser la porte ouverte aux rêves aussi. Donc, je pense que les deux raisons sont très certainement liées, d'une manière ou d'une autre.
Mais en tout cas, il y avait ce côté, si ce n'est fétichiste, en tout cas superstitieux.
Bien sûr. Et puis, il y a une troisième femme qui elle, également était portée pour le surnaturel, qui va avoir une influence énorme dans la vie de Bonaparte, c'est Joséphine, bien entendu. Alors, Joséphine, il ne faut pas oublier qu'elle a été élevée en Martinique. Hein, et en Martinique, se pratiquait beaucoup, à l'époque, le vaudou. Elle était sensible aux cartes, aux oracles, aux pressentiments. Et en plus, Napoléon, d'ailleurs toute sa vie, s'est entouré de gens qui étaient positifs et qui semblaient être portés par des ondes, j'allais dire, exceptionnelles. Il a considéré vraiment comme sa bonne fée, et il écartait de lui les gens qui avaient la poisse. Hein. Il le disait d'ailleurs régulièrement. Comment dirais-je, il se servait un petit peu de Joséphine aussi pour consulter quelques devins, parce qu'il ne se dérangeait pas, on n'en voyait pas autour de lui en réalité. La seule qui a été consultée par Joséphine, on en a parlé dans notre dernière émission d'ailleurs, c'était Mademoiselle Lenormand, qui était une devineresse très connue à l'époque, puisqu'elle avait même annoncé à Marie-Antoinette sa fin prochaine. Donc c'est quand même quelqu'un qui bénéficiait d'une renommée étonnante. Et seulement, ça n'a pas vraiment plu à Napoléon à certains moments, parce qu'il, c'est pas qu'il craignait la voyante, mais il craignait plutôt que Joséphine se livre ou laisse apparaître sa manière de vivre, sa vie intime. Il aimait pas, il avait peur que son intimité soit un peu donc plus connue à travers ce que mademoiselle Lenormand était censée raconter ensuite. Donc il a même fait arrêter mademoiselle Lenormand, pour vous dire que ça l'a vraiment agacé.
Ah oui, ben c'est ça, il a fait arrêter Il l'a fait arrêter mademoiselle Lenormand, la fameuse diseuse de bonne aventure, car il se méfie, dit-on, des esprits enflammés par l'imagination et des charlatans qui les exploitent. Vous savez que même en 1810, il fait mettre dans le code pénal qu'on condamne à 5 ans de prison les escrocs du surnaturel, devins et médiums. 5 ans de tôle dans le code pénal.
Je vous entends plus, là, soudainement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pardon. Ouais. Ah. Alors, je continue avant que Nicolas revienne un petit peu à l'antenne. Donc, en fait, Napoléon, en réalité, a vécu une forme d'égarement spirituel entre croyance et raison, et son goût pour le surnaturel était celui d'un penseur éclairé. Alors, ce que je viens de vous dire, en fait, c'est une formule qui a été, comment dirais-je, reprise à Marie-Paul Raffaelli, qui est une docteur Eslet, d'ailleurs, de l'Université de Corse, qui a sorti l'année dernière un très très bon livre, Le chat noir de Napoléon. On reviendra aussi sur ce chat noir. Ce livre est sorti donc en 2025 aux éditions du Cerf. Voilà. Alors, pour revenir au côté superstitieux de Napoléon, on a des exemples quand même très très concrets. Avant d'engager une bataille, il faisait deux signes de croix, donc pour s'attirer la chance. Il croyait en une étoile protectrice qui était en permanence au-dessus de sa tête, croyait-il. Voilà. Ça allait loin parce qu'il a même été jusqu'à changer la date de son coup d'État contre les 500. Donc, étant donné que l'opération devait avoir lieu le 17 Brumaire, il l'a remis au lendemain lorsqu'il s'est aperçu que ce jour-là était un vendredi. Donc Il est pas le vendredi, ni le 13, d'ailleurs. Alors, les vendredis 13, n'en parlons pas. Voilà. Nicolas,
Oui,
je vous entends bien.
Vous m'entendez, mon cher
Je vous entends très bien, voilà.
Une petite... Ben justement, le chat noir.
Ben le chat noir, c'est ça, voilà. Je crois que...
Les émissions avec le Padre Pio.
N'est-ce pas?
Des émissions où on avait toujours... Padre Pio étant farceur. Il nous fait des farces en général quand on fait des émissions sur Padre Pio, mais là, évidemment, on évoque le chat noir de Napoléon et eh bien, le chat noir se matérialise et se concrétise tout de suite. Oui, je disais qu'en effet, il avait fait arrêter mademoiselle Lenormand et que eh bien, vous aviez le code pénal, il avait modifié le code pénal en 1810 pour condamner à 5 ans de prison les escrocs du surnaturel, du devin et des médiums.
Absolument, oui. Vous vous rendez compte, donc ça allait quand même très très loin, et donc ça montre bien ce qu'il avait en tête en permanence, c'est-à-dire lui c'était un homme d'action, comme je l'ai souligné, homme de guerre et autres, et puis il était quand même tenté de voir le monde sous un autre angle, mais il se le refusait, il y avait une dualité, je pense, en lui en permanence à ce niveau-là.
Il était très rationnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui disait d'ailleurs, quand on lui posait la question de sa foi, disait qu'il était loin d'être athée, mais qu'il avait une approche extrêmement pragmatique de la religion. Pour lui, la religion, ça permettait de cimenter la nation, d'où d'ailleurs la signature du Concordat imposée dans son enfance. La religion était un allié de poids pour conforter son pouvoir et d'installer sur un trône simultanément temporel et messianique. Donc il y avait chez Napoléon, il voyait l'intérêt du religieux. C'était, voilà, c'est vrai, extrêmement pragmatique.
Comme chantait Marcel Mouloudji, athée au grâce à Dieu, comme disait-il dans sa chanson. C'est une, excusez-moi un petit peu pour cette citation.
D'ailleurs, vous avez cité Marie-Paul Raffaelli.
Oui, tout à fait. Voilà.
Pendant que j'avais cette petite coupure. Justement, Marie-Paul Raffaelli, voilà ce qu'elle disait sur les superstitions de l'empereur. Sa superstition lui sert à asseoir sa rationalité. Il est persuadé qu'à partir de signes qu'il interprète dans l'univers et qui lui seraient destinés, il va pouvoir créer un monde politique, social plus rationnel. Il rationalise son destin exceptionnel à travers le prisme de sa superstition, en quelque sorte, et se conforte dans cette conviction. Voilà, en constatant, justement, la bonne fortune. Alors, elles vont s'éloigner, ces convictions, lorsque la bonne fortune s'éloigne aussi, et que les croyances, finalement, le mènent loin lorsqu'il est finalement, il trébuche devant ses ennemis. Là, il se pose des questions sur, justement, le surnaturel, je suppose.
Voilà, alors d'autant plus que ce que vous venez de souligner a été étayé par la découverte, lui il avait découvert ce texte qu'en 1804, mais tout du moins par un certain François de Metz. Alors qui était François de Metz? C'était le secrétaire général de la Commune de Paris en 1793. Et cet homme va découvrir un livre, le livre des prophéties, composé par Philippe Dieudonné Noël Olivarius, docteur en médecine, chirurgien et astrologue. Ce sont des textes, en fait, qui vont raconter l'épopée napoléonienne et qui militent d'ailleurs pour le retour de la royauté. Seulement, il faut surtout avoir en tête que ce texte a été écrit en 1543, c'est-à-dire 2 ans même avant les quatrains de Nostradamus, que Nostradamus est passé 2 ans après aussi dans l'abbaye d'Orval, où ce texte figurait à l'époque, et donc on ne peut penser réellement que Nostradamus s'est plus qu'inspiré, hein, pour ne pas dire autre chose, de ce texte-là. Alors, j'insiste beaucoup parce que nous, on connaît ce texte donc, grâce à ce personnage, à François de Metz, parce qu'il en a fait plusieurs copies à l'époque. Et ces copies sont extrêmement intéressantes, hein, puisqu'elles racontent l'épopée napoléonienne. Alors, tenez-vous bien, je vais vous en lire un petit passage, parce qu'on a du mal à imaginer qu'en 1542-43, un certain personnage, donc Olivarius, avait annoncé ceci. La Gaule italienne verra naître, non loin de son sein, un être surnaturel. Bon. Cet homme sortira tout jeune de la mer et viendra prendre langue et mœurs chez les Celtes gaulois. Encore jeune, il s'ouvrira un chemin à travers 1000 obstacles et deviendra leur premier chef. Il ira d'abord guerroyer près de son pays natal, bon, ça on peut souligner que ça nous rappelle la première campagne d'Italie, donc. Outre-mer, il ira guerroyer avec grande gloire et valeur, l'expédition d'Égypte. Puis il ira de nouveau guerroyer le monde romain, donc deuxième campagne d'Italie, Marengo. Et il donnera des lois, donc le code Napoléon, le code civil. Vous venez de faire allusion d'ailleurs à ce qu'il a à propos des devins là, en 1810. Il pacifiera troubles et terreurs, allusion donc à la fin de la Révolution, sera nommé non roi mais impérator par grand enthousiasme populaire, batailleur partout dans l'Empire. Il déchassera prince, seigneur, roi pour 2 lustres et plus. C'est-à-dire, en fait, pendant 10 ans, près de 10 ans. Il s'en ira dans la grande ville, Paris, ordonnant force grandes choses, édifices, ports de mer, aqueducs, canaux. Il fera à lui tout seul autant que les Romains. Il aura femme par 2 et fils un seul. Il s'en ira guerroyer jusqu'où se croisent les lignes longitude et latitude, hein, c'est-à-dire vers le nord. Là, ses ennemis brûleront la grande ville, Moscou, incendiée par les Russes. Il y entrera et sortira avec les siens de dessous les cendres et les ruines. Les siens, n'ayant plus ni pain ni eau, par grande froidure, seront si mal que les deux tiers de son armée périront. Donc c'est la retraite de Russie.
Incroyable. Qui est annoncée.
Puis le grand homme abandonné, trahi par ses amis, c'est la fameuse trahison de Marmont, donc son ancien aide de camp, qui votera même par la suite l'exécution de Ney, du maréchal Ney, sera pourchassé à son tour, à grande perte, jusque dans sa propre ville, par les grandes populations européennes, donc il fait mention là, des alliés à Paris en 1814, à sa place sera remis le vieux roi de la Cape, donc Louis XVIII. Voilà. Quant à lui, il sera contraint à l'exil, dans la mer d'où il est venu, si jeune et près de son sol natal, l'île d'Elbe, première île, malheureusement, où il était obligé de séjourner. Il y demeurera 11 lunes avec quelques-uns des siens, vrais amis et soldats. Aussitôt, les 11 lunes achevées, lui et les siens prendront un navire et viendront mettre pied sur la terre gauloise, c'est le retour de l'île d'Elbe,
oui.
Et il cheminera vers la grande ville où s'est assis le vieux de la Cape, qui se lève et fuit, emportant avec lui les ornements royaux. Chassé de nouveau par une trinité de populations européennes, après 3 lunes et tiers de lune, c'est-à-dire 96 jours, parce qu'on dit toujours les 100 jours, mais en fait, ils ne furent que 96. On remet à sa place le vieux roi de la Cape, c'est le retour de Louis XVIII, bien sûr, et deuxième restauration. Enfin, il dicte des conseils souverains à toutes les nations et à tous les peuples. C'est le mémorial de Sainte-Hélène. Et il meurt. Voilà ce que raconte, vous imaginez, en 1742, un certain Olivarius. Alors, donc, de
1542,
vous imaginez.
1542. Alors.
Et donc, en 1550, donc, on va dire 8 ans, autour de 8 ans, à peu près autour, parce que le temps que ça soit écrit et édité, un autre médecin astrologue, alors lui, extrêmement connu, puisqu'il s'agit de Michel de Nostradamus, enfin Nostradamus, dans ses centuries, reprend un quatrain. En quatrain, il y en a 2-3, mais enfin, je vais vous lire, ça c'est très rapide, donc, ce qu'il écrit, d'une manière donc plus concise, bien sûr, mais tout autant explicite, l'épopée de Napoléon, puisque Nostradamus écrit « Un empereur naîtra près d'Italie et qu'on trouvera moins prince que boucher, de soldat simple parviendra à un empire, de robe courte parviendra à la longue, la tête rase par 14 ans tiendra la tyrannie. » Il est inutile, je crois, de rappeler que les soldats de la Grande Armée surnommaient Napoléon le Petit Tondu et que ses 14 années de règne sont rattachées donc, à la période qui va du consulat donc, en novembre 1799 et jusqu'à Waterloo en juin 1815. Alors, vous imaginez cette épopée qui est complètement décrite, mais dans des détails étonnants. Alors, on peut dire oui, mais peut-être que ça a été écrit après, etc. Oui, enfin, de toute manière, la copie dont je viens de parler, et elle a quand même été écrite à partir de 1793, hein, par ce fameux François de Metz. Donc c'est quand même curieux. Voilà, je referme la parenthèse.
C'est plus que curieux, c'est plus que curieux, mon cher Gérard. Gérard, je vous propose de faire une très courte pause de Bobino, on se retrouve juste après, si vous le voulez bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Soutenez, chers auditeurs, votre radio de cœur, Radio Courtoisie. Nous avons évidemment besoin de vous. Nous sommes donc en compagnie de Gérard Le Tailleur dans ce florilège des arts. Le thème de l'émission Napoléon et le merveilleux. Et oui, Napoléon était un empereur superstitieux. Et un certain nombre d'éléments, dont ceux des manuscrits d'Olivarius, et donc au XVIe siècle, hein, 1542, et un petit peu plus tard, 44-45, Nostradamus passe par là. passe par l'abbaye d'Orval, trouve ses manuscrits, écrit lui-même, c'est ce que vient de nous conter Gérard Le Tailleur, un certain nombre de centuries de prophéties concernant Napoléon. C'est en effet pour le moins singulier, mon cher Gérard.
Voilà. Et alors, dans la continuité de ce que je viens de vous lire, là, nous allons donc franchir quelques années. On est en 1804 maintenant, en 1804, donc juste quelques temps après le sacre. À ce moment-là, c'est à ce moment-là précisément que Napoléon, pour la première fois, va avoir entre les mains cet ouvrage. Il en avait peut-être un peu entendu parler, mais bon, bref, pour lui,
c'était... Les manuscrits d'Olivarus tels qu'ils ont été réécrits en...
Voilà, en 1700, à partir de 1793, donc par François de Metz. Et à côté de lui, eh ben, il y a Joséphine. Alors, il commence à parcourir quelques pages, étonné, et il tend ce livre à Joséphine. « Tiens, lis, lui dit-il, on dirait qu'il est question de moi dans ce livre. » Comment, dit Joséphine, dans un livre publié en 1543, point d'interrogation, mais t'as qu'à lire, lis donc. Alors Joséphine obéit, elle va saisir ce vieil ouvrage à couverture de parchemin jauni, et malgré, on peut dire, le style difficile, les caractères durs à lire, hein, bon, elle va quand même parvenir à comprendre ce texte, écrit par ce médecin astrologue, au départ, et traduit ensuite par de Metz, François de Metz. Et lorsqu'elle eut fini, elle regarda Napoléon et elle lui dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Elle lui demande-t-elle « Qu'est-ce que tu en penses ?» Bon, l'empereur hausse les épaules. Bon, tu sais, les prophéties, elles disent toujours ce qu'on veut bien leur faire dire, hein, tu sais. Mais 6 ans plus tard, après son mariage avec Marie-Louise, il reprendra l'ouvrage à ce moment-là, parce que là, les choses se précisent et pas toujours dans le bon sens. Cet ouvrage d'Olivarius, il va le relire avec une attention particulière et s'arrêter sur toutes ses prédictions. Et cette fois-là, vraiment, il ne rit plus. Alors, il va faire appeler un théologien de Saint-Sulpice. Oui. Et va lui demander, il va lui poser la question, il veut savoir si la religion oblige à croire aux prophéties. Alors ce brave abbé se contentera simplement de lui répondre « Oh, vous savez, l'Esprit de Dieu a toujours parlé par les prophéties, pas spécialement par celles de
Livarius. » Par les prophètes.
Voilà. Alors on peut dire que ça ne lui a pas vraiment remonté le moral sur le moment, donc il regarde ce brave théologien. Et il se met à être de plus en plus pensif. Et d'ailleurs, il confiera donc au soir de sa vie à Ascase, « Je suis né avec des propensions à être superstitieux. » Plus le temps passait, plus il se posait beaucoup, beaucoup de questions. Et on peut dire d'ailleurs que toute sa vie était marquée comme ça par des signes très curieux, notamment le jour de son sacre, le jour du sacre. Oui. Lorsque le carrosse passe sous le porche des Tuileries, l'aigle qui le surmontait va se détacher. Il va tomber par terre, il tombe sur le sol. Et quand Napoléon l'apprendra, quelques instants plus tard, il fermera les yeux et son teint deviendra cireux. Pour lui, très très mauvais présage.
Voilà, c'est le superstitieux. Là.
Complètement. Idem le jour de sa première rencontre avec Marie-Louise, alors qu'il se rendait au devant d'elle. Une roue de sa calèche se brisa. Imaginez. Alors, il dut gagner le village à pied sous la pluie. Il était livide et une nouvelle fois, il considéra cet événement comme un très très mauvais présage. Alors, il n'hésitait pas, donc, mais continuellement, c'était depuis sa tendre enfance, je suppose, à faire des gestes un peu curieux. Par exemple, il faisait les cornes avec ses doigts pour chasser le mauvais œil. Bon, ça, je crois que...
Ah, quand même,
voilà,
oui,
avait des choses. Voilà. Alors, il était intraitable sur le nombre 13, et fuyait les personnes donc, qui portaient la poisse, comme je vous l'ai dit. Et il y a aussi un personnage dont je voudrais vous parler, oui. qui est apparu à plusieurs reprises dans l'histoire. On pourrait peut-être même faire une émission un jour sur lui. Oui. Il a été surnommé par beaucoup, beaucoup de personnes au fil du temps, et ça va, on peut dire peut-être que sa première apparition remonte à Catherine de Médicis, jusqu'à Napoléon, peut-être continue-t-il d'ailleurs d'apparaître, mais ça on ne le sait pas réellement. C'est un personnage qu'on surnommait le petit homme rouge des Tuileries. Le petit homme rouge des Tuileries. Alors, il se présentait comme une espèce, on va dire un peu, avec un mot un peu amusant, une espèce de lutin. Mais c'était un personnage, bon, légendaire quand même, hein, je pense, qui apparaissait et qui d'ailleurs n'apparaissait pas à n'importe quel moment. C'était toujours lié à un événement important, et généralement néfaste d'ailleurs, hein, qui allait se produire. En général, c'était pour annoncer la chute des souverains. Donc un jour, il se présenta donc, sous la forme de ce petit monstre au costume rouge, rouge sang. C'est lui aussi aurait prédit à Catherine de Médicis sa mort près de Saint-Germain. Voilà, il n'y a pas seulement Ruggieri, mais ce petit homme rouge des Tuileries. Vous connaissez bien sûr cette petite anecdote, Nicolas, puisque nous l'avons même mentionnée ensemble dans l'émission précédente, où Catherine de Médicis apprend qu'elle mourra un jour près de Saint-Germain. Donc,
près de Saint-Germain, tout à fait.
Elle est complètement affolée. Dès qu'elle voyait Saint-Germain, que ce soit Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Germain-des-Prés, la ville de Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, elle fuyait comme la peste ces lieux en étant persuadée qu'il allait lui arriver quelque chose, jusqu'au moment où elle se retrouve à Blois, auprès de son fils, donc on est en plein règlement de compte entre les trois Henri, là, elle est près d'Henri III, qui venait de faire assassiner d'ailleurs le duc de Guise. Voilà, l'ambiance était bonne au château de Troyes, et elle se trouve mal, elle a une mauvaise grippe, elle est alitée. Et donc le roi dit, il faudrait peut-être appeler notre médecin, on va chercher le chirurgien, etc. Et puis on dit, mais il n'est pas là, il est en déplacement. Ah mince, qu'allons-nous faire à ce moment-là? Il y a un jeune prêtre qui est là et qui peut peut-être le remplacer. Il sera très très heureux d'être près de sa majesté. Ah, faites-le venir. Alors il y a un jeune prêtre qui arrive et il salue Catherine. Et Catherine le regarde et dit, mais je ne vous connais pas. Non, c'est la première fois que non, le plaisir de me retrouver en votre présence, votre majesté. Et vous vous appelez comment? Et il dit, je m'appelle Laurent de Saint-Germain. Alors je pense que ça n'a pas dû arranger les choses. Et la pauvre malheureuse s'est trouvée mal et elle décédera quelques jours plus tard quand même. Voilà. Donc, alors, on attribue bien sûr cette... C'est ce présage à Ruggieri, qui a été, en ce qui concerne Catherine de Médicis, son voyant attitré, qu'elle avait fait venir de Florence d'ailleurs, qui était presque un ami d'enfance pour elle, mais aussi à ce petit homme rouge des Tuileries, dont j'ai mentionné il y a quelques instants donc l'histoire. Mais il n'y a pas qu'à Catherine de Médicis que ce personnage curieux est apparu. Louis XVI aussi l'a vu le 21 juin 1791, lorsqu'il partait, espérant rejoindre des cieux un peu plus agréables momentanément, et jusqu'à
la fuite de Varennes.
Voilà, la fuite de Varennes. Et ce jour-là, donc, des personnes dirent avoir aperçu ce curieux lutin couché sur le lit du roi. Bon, vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Alors, il aurait aussi fait une apparition assez brève à Marie-Antoinette, une nuit de juillet 1792, peu de temps donc avant la chute de la monarchie. Et puis aussi, si on repart un peu dans le passé, dans la nuit du 13 au 14 mai 1610, il est apparu au roi Henri IV, qui allait mourir, bien sûr, sous les coups de couteau de Ravaillac quelques heures plus tard. Donc, à chaque fois que quelque chose d'épouvantable allait se produire...
Le mauvais présage, ce lutin.
Ce lutin arrivait. Alors, en ce qui concerne Napoléon, donc Napoléon l'aurait vu à plusieurs reprises. Hein. Ah. D'abord, il aurait parlé à Napoléon, il lui aurait conseillé de faire donc son fameux coup d'État le 18 Brumaire et non pas le 17, comme c'était un vendredi. Puis, une nouvelle fois, donc avant son mariage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Marie-Louise d'Autriche, et puis aussi une dernière fois avant la débâcle de Waterloo. Donc,
De Waterloo,
vous imaginez, donc il a... Et donc, c'était pas... Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais...
Il est en tout cas un oiseau de mauvais augure, de mauvais présage.
Voilà, c'est l'image.
On souhaite.
L'image est belle.
On souhaite, mon cher Gérard, si vous me permettez, on souhaite, mon cher Gérard, qu'il apparaisse le plus vite possible à Emmanuel Macron.
N'est-ce pas? Bah, ça a peut-être déjà été fait, mais on n'en sait rien.
Voilà. Et plutôt plusieurs fois qu'une, ce serait parfait.
Et des courtisans aussi ont raconté l'avoir vu sur les marches de l'opéra après la mort de l'empereur, après la mort de Napoléon. Napoléon Ier, là, parce que oui. Napoléon le Grand et pas Napoléon le Petit, pour reprendre les ce que pensait Hugo de Napoléon III, voilà. Donc, On peut toujours sourire de cela. Alors, je vais quand même citer, là, c'est important, parce que ça s'appuie, tout ce que je viens de vous raconter, cher Nicolas, ça s'appuie sur des sources très précises.
Hein. Dites-moi.
Alors, quelques Dites-nous. Livres comme ça au passage, notamment un livre qui a été écrit en 1951, aux éditions Svelte, puis ensuite réédité chez Grasset. Le titre, c'est « Napoléon ignoré », l'auteur c'est Jules Berthaud. Vous avez aussi, alors, il y a un personnage aussi que j'adore, moi j'ai lu beaucoup beaucoup de livres de lui, ce sont des livres qui sont sortis autour de 1900, c'est le docteur Cabanès. Alors pourquoi ce docteur Cabanès est passionnant à lire? Parce que eu égard d'ailleurs à sa discipline qu'il maîtrisait merveilleusement bien, d'abord ce fut un très très bon auteur, et il nous a expliqué le comportement des grands de ce monde à travers les maladies qu'ils pouvaient avoir. Donc l'incidence des maladies sur l'incidence du corps sur l'esprit. Et notamment, une petite anecdote à propos de Napoléon, on rejoint notre sujet. Là, ça, on n'est pas dans le surnaturel, malheureusement, parce que ça fait souffrir ce que je vais vous raconter. Nous sommes à Waterloo, quand même, donc la bataille va commencer, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que Napoléon a beaucoup de mal pour monter à cheval, pour aller solliciter et donner ses ordres, d'ailleurs, à ses maréchaux, ses généraux. Pourquoi? Bah parce qu'il a, à ce moment-là, une terrible crise, excusez-moi de vous dire ça, une crise d'hémorroïdes. Bon, on le sait parce que des médicaments, des crèmes, etc. sont arrivés à toute allure là pour essayer de le soulager. Et Cabanès raconte ça donc en détail. Bien sûr, on n'en parle pas dans les livres d'histoire, on préfère dire que Grouchy est arrivé en retard, ce qui est vrai aussi d'ailleurs, mais enfin... Disons que ces douleurs que Napoléon a ressenties n'ont rien arrangé du tout. Et on imagine mal le titre dans un manuel d'histoire, Napoléon à Waterloo 2. A perdu à cause de cette fameuse crise d'hémorroïdes. Mais c'est la vérité est là quand même. Refermons cette parenthèse. Il y a aussi un livre formidable qui est sorti chez Carrère en 1946. Sous la plume de Georges Manguin, c'est Napoléon et la superstition. Vous avez aussi alors un très bon livre qui a été écrit, sorti chez Payot, très 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 bon éditeur d'ailleurs Payot, La superstition à travers les âges. C'est une femme, André Ruffa, qui a écrit ce livre qui est très bon. Et puis aussi, citons, alors ça c'est peut-être le livre qui a fait le tour du monde à plusieurs reprises, mais qu'on ne veut pas trop mentionner d'ailleurs, c'est l'histoire de la magie par Eliphas Lévy. C'est un livre qui a été publié en 1860, qui reprend notamment pas mal de petites anecdotes comme ça que je vous ai racontées. Il n'y a pas qu'Eliphas Lévy, Cabanès aussi parle de cette histoire de Maître Noël Olivarius, etc. C'était quand même des personnes qui étaient plus proches, j'allais dire, que nous, au niveau du temps, des événements que nous avons, développés là, au cours de cette émission. Et il est vrai que ces historiens donc, qui ont écrit, et ces amoureux de l'histoire, qui ont écrit sur l'empereur, à travers cette superstition, ce surnaturel, notamment, ont été, un peu oublié aujourd'hui. Je trouve que c'est bien, bien dommage. On se veut très cartésien de nos jours, mais enfin, on s'aperçoit quand même que il y a souvent de la coupe aux lèvres à ce niveau-là. Donc voilà, donc je voulais quand même vous citer ces sources, et j'invite nos auditeurs à redécouvrir la lecture de ces ouvrages pour ceux et celles qui souhaitent en savoir encore davantage sur... Notre empereur, notamment, et tout ce qui s'est rattaché donc à ce côté surnaturel du personnage. Mais enfin, aussi, il était corse, faut pas l'oublier non plus, parce que moi j'ai beaucoup d'amis corses, et il est vrai que ce sont des insulaires, donc ils vivent avec la nature, avec la mer, ils ont une vision du monde qui est quand même différente de celle des citadins, vous voyez, parisiens et autres, où là on devient un peu plus, enfin on est un peu plus, sans mauvais jeu de mots, terre à terre, quelque part, on a moins d'ouverture d'esprit. Le Corse aime rêver. Et puis donc d'où cette ouverture d'esprit, je pense, du petit Bonaparte, en plus conseillé, aidé et sous l'emprise merveilleuse du merveilleux de comment dirais-je de sa nourrice là de Carbone,
oui.
D'Hilary. Donc voilà quelques mots là que je souhaitais donc vous livrer.
Il y a aussi Gérard, un aspect que vous n'avez pas développé mais qui est très présent chez Napoléon aussi, c'est son rapport avec la franc-maçonnerie.
Oui, absolument, c'est certain.
Vous voyez Cambacérès par exemple. Cambacérès a été grand maître du Grand Orient pendant pratiquement tout l'Empire.
Bah, beaucoup de ces maréchaux étaient aussi affiliés. Bah, vous savez, ça a toujours été, depuis les débuts de la franc-maçonnerie en France, c'est-à-dire, on va dire surtout le XVIIIe siècle, on a été un peu préservés, c'est-à-dire avec l'Inquisition, c'est-à-dire que effectivement la franc-maçonnerie n'a pas pu se développer comme elle l'a fait en Angleterre notamment ou en Écosse, puisque je crois que d'ailleurs que les premières traces réellement remontent même à la chute des Templiers, hein, lorsque le fameux Launay est parti en Écosse sur les conseils du grand maître qui allait périr dans les flammes peu de temps après. Donc pour essayer de sauver le maximum de biens qu'avaient les Templiers, qui étaient quand même beaucoup plus riches que le roi, il ne faut pas l'oublier, d'où ce qui s'est passé. Et donc l'Angleterre, l'Écosse, a vu effectivement se développer ces associations discrètes. Voilà. En France, beaucoup moins, parce qu'il y avait plus de vigilance à ce niveau-là, mais c'est surtout au XVIIIe siècle. Que même beaucoup de nobles étaient francs-maçons. C'était pas uniquement, j'allais dire, les révolutionnaires, oui, le furent pratiquement tous, d'ailleurs. De fil en aiguille, bien entendu, les grandes personnalités aussi qui ont entouré Napoléon l'ont été, les maréchaux, pour pas dire la totalité. C'était aussi, j'allais dire, une mode. Hein, ça n'a pas trop changé non plus aujourd'hui. Je ne veux pas trop rentrer dans ce détail, mais enfin, on sait que le monde politique voisine fort bien avec ces sociétés discrètes, notamment surtout la maçonnerie.
Alors, en tout cas, Cambacérès est vraiment non seulement chef suprême du rite français, grand maître adjoint du Grand Orient avant le retrait du prince Louis Bonaparte en 1805, et le reste jusqu'à la fin de l'Empire. Il est aussi grand commandeur, vous parliez du rite écossais, du suprême conseil du rite écossais, et cumule plusieurs autres fonctions maçonniques. Donc on a
33e
quand
degré,
même au cœur du pouvoir et des alliances noué par Napoléon, la franc-maçonnerie. Et il y voit probablement déjà un intérêt rationnel pour asseoir son pouvoir.
Ah, vous avez parfaitement raison. Vous savez, je crois que rien n'a changé aujourd'hui, hein, Nicolas. Voilà.
Non. Non. C'est évident. Voilà. Mais puis, il y est inspiré peut-être par la légende d'Hiram, par l'Égypte, la campagne d'Égypte. Vous nous avez parlé
bien sûr,
du fameux scarabée.
Bien sûr, bah bien entendu, vous savez. Mais tout est lié. Napoléon, c'est un voyage merveilleux qu'il a fait à travers le temps, à travers toute sa carrière, qui s'est déroulé d'une manière très, j'allais dire, curieuse, parce qu'au départ, il était persuadé qu'il ne ferait rien en France. Quand il allait au Procope, il rencontrait d'ailleurs des gens étonnants comme Danton, Robespierre et autres, Marat, qui venaient aussi en tant que client, donc, de Procopio del Coltelli, là, le fondateur du Procope. Eh bien, Il était là et il disait, mais bon, pour moi, la France, c'est fini, je vais partir à l'étranger, je vais faire quelque chose et autres. Et puis, je crois qu'il s'est laissé porter par les événements. Et tout au long de sa carrière, il s'est senti de plus en plus attiré par ce monde parallèle. D'où ce que vous venez de dire à propos de l'Égypte, notamment. Et vrai, bon, c'est vrai que la légende d'Hiram est à la base même de la création, enfin, du moins des récits de base que les francs-maçons aiment diffuser, sachant pertinemment d'ailleurs qu'ils sont complètement légendaires, ces récits, bien entendu. Hein.
Est-ce qu'il n'y avait pas chez Napoléon aussi une instrumentalisation du sacré, de l'étrange, du merveilleux, du fait de, finalement, du fait que Napoléon est un parvenu de la politique. Il ne vient de nulle part, si j'ose dire. Le sacre, il est obligé de s'ajouter les oripeaux du sacré, du symbolique, en permanence. Donc, il a besoin de signes du ciel ou du signe de l'invisible, tout simplement parce que il n'a pas de légitimité a priori. Il n'est pas, contrairement au roi de France, assis sur une descendance, le sang, la monarchie de droit divin. Donc il lui faut trouver finalement un sacré et des symboles de substitution. Ce qui explique aussi qu'il va beaucoup instrumentaliser cet aspect mystérieux, invisible.
Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est rejeté par les rois, les reines de son époque, même par le tsar. Parce que c'était vraiment le parvenu aux yeux de ces personnes. Et ça le travaillait. Je pense, en plus, il ne faut pas oublier qu'il était hypersensible, Napoléon, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et qui ça se traduisait d'ailleurs par ces pressentiments qu'il ressentait et autres. Notamment, puisqu'on vient de parler du tsar Alexandre, là, indirectement. Il y a une anecdote d'ailleurs qui montre aussi qu'il interprétait ses rêves d'une certaine manière. Une nuit, après avoir assisté à une représentation théâtrale, donc à Paris, aux côtés du tsar Alexandre, s'est mis à pousser des cris dans la nuit. Alors immédiatement, son valet de chambre, Constant d'ailleurs, s'est précipité dans la chambre. Tout était possible, peut-être une tentative d'assassinat ou autre. Et l'empereur était dans son lit, couvert de sueur. Et Constant donc, s'approche de lui, le calme un peu. Et Napoléon va lui dire à ce moment-là, je faisais un rêve affreux. Un ours m'ouvrait la poitrine et me dévorait le cœur. Et il ajoute, est-ce l'ours russe ? Il lui a répété ça plusieurs reprises. C'est-à-dire que dans son esprit, le tsar Alexandre, c'était, bien sûr, c'était la grande Russie, mais c'était l'ours, puisqu'on a toujours identifié la Russie à un ours. Et il voyait donc cet ours lui dévorer le cœur, ce qui arrivera quelques années plus tard, d'ailleurs. Voilà. Il faut relire Tolstoï, là, pour Guerre et Paix en détail, pour être au cœur de l'événement.
Bien. Écoutez, Gérard, il nous reste même pas 3 minutes pour conclure cette émission sur Napoléon, l'empereur et le merveilleux, dont on voit que, en tout cas, ce qui a été le point fort de vos développements, c'est en effet ce fameux Olivarius.
Voilà, je renvoie nos auditeurs donc à la lecture de ce texte qui a été plusieurs fois réédité. D'ailleurs, on le trouve sur le net. Olivarius, vous aurez automatiquement les renseignements. Je crois même Amazon en a une version actuellement sur le net. Donc, je pense que c'est important. Ce sont des textes. On se demande d'où réellement ils viennent, parce que quand même de 1542 à, oui, à, on est compte à 1793 déjà, date de sa découverte. Comment pouvait-on à ce moment-là en savoir tant ou deviner des choses pareilles quand même? Donc automatiquement, il y a quelque chose qui s'est produit. Et là, c'est difficile de dire que ce fut un canular. Non, ça ne peut pas être un canular, eu égard à ces dates.
Mais puisqu'il est réécrit de toute façon avant la saga Napoléon.
Complètement. Donc voilà, on laissera nos chers auditeurs là, dans l'expectative un petit peu, dans l'attente, d'en savoir un peu plus, bah, peut-être à l'occasion d'une prochaine émission, peut-être pas sur Napoléon, mais on essaiera quand même de rester dans ces thèmes, parce que je sais que c'est assez adorable. Je pense qu'on a fait bondir de leur fauteuil des grands historiens qui adorent toujours Napoléon, mais ce que j'ai raconté, finalement, ils le savent bien, mais ils préfèrent orienter leurs ouvrages sur le Napoléon guerrier, et sur l'homme qu'il fut, qui était aussi extraordinaire, parce que c'était, soit à travers le code civil et autres, qui est toujours en vigueur, quelque part, chez nous, aujourd'hui, une des personnalités les plus fortes de notre histoire.
Mais tous ces génies politiques, ces stratèges, de toute façon, ne peuvent qu'être superstitieux, parce que ils sont toujours sur la brèche, et on l'a bien vu, de toute façon, le rapport avec le pouvoir. On a parlé de nombreux hommes de pouvoir sous la Ve République, déjà une émission sur ce sujet, de De Gaulle à François Mitterrand, de chef qui a été superstitieux, allé dans l'invisible. Parce que voilà, c'est aussi le lien entre le mystérieux, l'étrange, l'invisible et le pouvoir politique.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on a beau avoir coupé la tête du roi et en avoir fini avec le droit divin, néanmoins, il y a toujours cet aspect-là qui reste.
Et puis le pouvoir isole, vous savez, Nicolas, hein, vous vous retrouvez en fait tout seul. Pour évoquer même en 10 secondes un des personnages...
Ah, 10 secondes, c'est fini.
Ah bon,
vraiment en 10 secondes.
Alors, 10 secondes. Non, je pense à un des pires de notre histoire, Adolf Hitler, voilà, qui un jour se retrouve avec Goebbels, et Goebbels lui dit, mais c'est extraordinaire, vous avez vu, il y avait des milliers de personnes là, qui vous ont acclamé, mais c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, Hitler lui dit, non, ne croyez pas ça. Un jour, vous savez, je me retrouverai tout seul avec Mademoiselle Braun et mon chien. Donc, il avait conscience qu'on peut peut-être être momentanément adulé et puis aussi complètement rejeté, ce qui est d'ailleurs une excellente chose en ce qui concerne ce personnage.
Voilà. Il a fini dans son bunker. Merci Gérard Le Tailleur.
Je vous en prie, Nicolas.
Pour cette émission du Florilège des Arts. Merci chers auditeurs. Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis pour ma part à demain matin 9h pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Merci à vous.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 6 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.